Et ben déjà, merci à tous d'avoir participé à la journée. Donc du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant qu'il y ait une mini restitution, vraiment pas d'enjeu. Ça peut durer 2 minutes par groupe. L'idée, c'est que comme il s'est passé plein de choses cet après-midi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir faire tous les ateliers, on puisse échanger sur ce qui s'est passé pendant ces 2 heures et demie, car ça a duré plus longtemps que prévu, mais c'est bon signe. Donc du coup, peut-être on va commencer avec l'atelier donc, de PJ Parkas sur les IA open source pour la création. Mais PJ, alors l'objectif, c'est que ce ne soit pas les personnes qui ont animé qui viennent restituer. Et je ne connais pas ton prénom en jaune, mais tu m'as dit que tu... Et bah Benjamin, est-ce que t'es chaud? Allez. Allez, Benjamin!
Merci à toi.
Bonsoir.
Donc on a parlé de comment on peut faire avec du low-tech, de l'IA, surtout sur l'image. C'est-à-dire pouvoir prendre une vieille machine, un vieux Mac Pro d'il y a 10 ans, comment on fait pour lui mettre une bonne carte graphique, contourner les problèmes de driver, et en gros, tout ça pour arriver au bilan que si on veut faire du pas cher, ça demande quand même un certain niveau de compétence ou une certaine curiosité, quoi, à développer pour pouvoir arriver à détourner une machine pour lui faire accéder à des modèles qui aujourd'hui demandent un M3, un M4, enfin voilà, des choses qui sont vraiment onéreuses, et comment on fait pour contourner l'obsolescence, et que ça demande, comme j'ai dit, une capacité et en même temps, de manière un peu symétrique, il y a aussi cette volonté de s'extraire du modèle en ligne. Donc on va fournir toutes nos données, nos images, notre volonté créative qui va être hébergée à distance sur un serveur dont on ne maîtrise absolument pas la propriété intellectuelle, et qui va du coup, tout le travail qu'on fait sur un serveur génératif en ligne ne nous appartient plus par définition. Au passage, même sur WeTransfer, maintenant quand on envoie un fichier, ne nous appartient plus puisqu'il est processé. Et du coup, c'était aussi comment trouver des outils pour pouvoir héberger des modèles en local et pouvoir les alimenter avec notre travail sur notre machine sans dépendre d'un serveur et tout un écosystème qui, comme le disait très justement ma collègue, on croit dématérialisé, mais en fait a un vrai impact écologique et énergétique. Donc voilà, comment s'émanciper de toute cette logique-là à travers la connaissance de ces outils, de comment les installer, comment les administrer, que ce soit par des bibliothèques Python, enfin voilà, plein de processus techniques, mais aussi sur tout un système de langage, comment on fait pour les prompter, comment on fait pour les définir, comment on fait pour communiquer avec eux de manière la plus efficace possible, sachant que la plupart du temps, ce sont des modèles qui ne sont pas du tout transparents, sur lesquels on n'a pas de feedback, et que la black box ne nous permet pas d'avoir une compréhension claire de l'interprétation de ce qu'on a demandé, mais qu'on est obligé du coup de tâtonner par des tests multiples et encore beaucoup de curiosité pour arriver à accéder à une espèce de maîtrise de ce facteur X créatif qui nous intéresse quand même.
Eh bien, merci.
Voilà.
Est-ce qu'une personne qui a participé à l'atelier de Christine Debray sur les services numériques éco-responsables voudrait venir prendre la parole rapidement? Nicolas, je te sens chaud.
Du coup, je prends mon nom qui s'échange. L'atelier a consisté d'une introduction de 15 minutes sur le contexte écologique et dans quel contexte s'inscrit cette considération sur la transition du numérique. Très vite, sur la question des 9 limites planétaires, sur la question des cycles de l'azote et du phosphore dans l'agriculture, sur la diminution de l'efficacité de l'extraction des matières naturelles, comme le les métaux rares, etc., sur l'efficacité d'extraction du pétrole qui diminue, sur les modèles économiques, comme le modèle néoclassique qui ne considère pas les ressources naturelles comme faisant partie de l'équation, sur l'économie du donut que vous avez peut-être entendu à travers le, l'autrice Kate Raworth, qui prend en compte à la fois des plafonds et des planchers sur les 9 limites planétaires. Voilà. Ensuite, sur cette base, a été déployée toute une réflexion sur la transition du numérique, donc tout d'abord en regardant l'impact matériel du numérique, sur l'idée que donc 2,5% des émissions CO2 nationales étaient liées au numérique en 2020, que 4,4% étaient liées au numérique en 2022, et que tout ça était avant l'apparition de ChatGPT. C'est-à-dire que sans doute ça s'est envolé depuis les 4 dernières années. On n'a pas encore de données récentes. La partie centrale qui a suivi donc, s'orientait sur les 3 niveaux de consommation. Donc la partie réseau, la partie data center et la partie terminaux, tous terminaux confondus, donc de la montre intelligente au smartphone à la bague connectée. Donc sur la partie réseau, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ? Le fait notamment que dans l'inconscient collectif, les gens parlent souvent de satellite, mais en fait, il y a très peu de communication qui passe par les satellites. Néanmoins, 37 000 satellites sont en fonctionnement et on ne connaît pas leurs données dans les derniers rapports. Donc pour l'instant, c'est une partie qui n'est pas intégrée dans l'impact CO2 connu. Pour la partie data center, nous avions quoi ? Ah oui, le fait que la consommation des data centers était stable depuis pas mal de temps, jusqu'à 2022, mais que depuis du coup l'arrivée des modèles d'IA générative, les prévisions vont vers une inflation de x4 à x5 d'ici 2030, si la bulle n'éclate pas d'ici là. Il y a une très belle application qui s'appelle Electricity Map, qui permet de voir justement les différents mix énergétiques à travers le monde pour comprendre un peu ces impacts et comment ils sont différenciés selon la localisation des infrastructures. Ensuite, on est arrivé sur donc, l'empreinte côté objet. 60% de l'empreinte des objets, c'est sur leur partie fabrication, 40% sur la partie utilisation. La vidéo, par exemple, aux dernières informations côté ARCOM, était responsable de 33% du trafic en France, 60% à l'échelle mondiale, selon les chiffres de 2020. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ? Le recyclage est assez peu efficace dans le domaine du numérique, à la fois pour les questions d'alliage, où on a en fait différents composants et différentes matières à des échelles miniaturisées. Donc il est plus utile d'agir sur nos usages, sur la durée de vie, sur la réparabilité de nos matériaux, enfin de nos technologies numériques, éventuellement sur la modularité comme dans le cas des Fairphones. Voilà, et ensuite on a passé un petit quart d'heure à discuter de ce que pourrait être un plan d'action à l'échelle des TPE de la culture et du numérique, où on a essayé de voir un ensemble de préconisations qui ont été réunies par Madame Debray et qui font l'objet d'un PDF qui sera accessible et partagé à ceux qui le souhaitent, qui recouvre un petit peu tous les sujets que je viens de traiter avec des manières concrètes de pouvoir un petit peu influer sur notre impact environnemental dans le numérique.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait l'atelier avec Angie Gaudion de Framasoft sur les alternatives aux GAFAM qui voudraient bien prendre rapidement la parole ? Je n'en rappelle plus qui était dedans. Donc, y a... Ah, si,
Ah, trop bien.
La question, c'était adopter les alternatives aux géants du web. Et du coup, pour ça, on a pris quelques notes. On s'est posé trois questions. On s'est d'abord demandé pourquoi. Donc, on avait parlé de peut-être gagner en indépendance technique. On avait parlé aussi de dégradation des services, donc l'obsolescence programmée des services. On avait parlé de l'idée aussi de peut-être de diversifier les acteurs qui nous fournissent des outils, de ne pas financer des acteurs qui, du coup, ont des effets néfastes sur le monde, l'environnement, la société. On avait parlé aussi de sécuriser ces activités, notamment dans l'usage des données qui étaient faites de ce qu'on envoie et de ce qu'on fait passer, transiter par les outils, notamment en ligne. On avait parlé aussi des bascules politiques des géants du web, comme on a pu l'observer récemment avec des services qui peuvent être coupés du jour au lendemain, et que donc du coup ça il faut pouvoir aussi s'en prévenir. Tu me dis hein, si jamais tu peux ajouter des trucs. Hein.
Oui, et alors du coup pour ce faire, on avait des tableaux où il y avait du coup deux possibilités pour différents services. Du coup, à savoir si c'était... j'ai plus les termes exacts, mais...
Privateur et émancipateur.
Ouais, oui, c'était privateur et émancipateur. Et du coup, on a fait un petit peu le tour de nos propres connaissances collectives pour voir, du coup, qu'est-ce qu'on pouvait avoir qui était plutôt du côté émancipateur. On avait un petit peu moins d'idées. C'est pour ça que c'était pratique d'avoir l'atelier. Et aussi, du coup, ce qu'on connaissait déjà, du coup, qui était... réducteur, j'ai vraiment pas le nom. Hein.
C'est privateur.
Privateur, merci beaucoup. Et ensuite, on a fait le point du coup sur certaines des alternatives qui pouvaient être proposées, que ce soit par Framasoft, mais aussi par d'autres acteurs.
Ouais. Donc, ouais, tu veux que je passe là-dessus
Ouais, on a parlé aussi des enjeux du libre, du coup, en évoquant les quatre piliers que j'ai notés, mais que j'ai pas sous les yeux, donc que je vais pas essayer de dire.
C'était que du coup les logiciels qui sont sous licence libre, du coup, ils sont libres d'être utilisés, d'être modifiés, d'être distribués. Enfin, vous pouvez ensuite distribuer du coup les modifications que vous avez faites. Et il m'en manque un aussi.
Partager, modifier, accès au code.
Ouais.
On a réussi à faire les quatre.
Et effectivement, du coup, dans les critères, surtout la question des outils qu'on va adopter, la question qui était importante, c'était de se poser du coup la question des critères. Qu'est-ce qu'on met comme critères sur les outils qu'on veut utiliser pour que ce soit vraiment du coup des véritables choix et pas simplement parce que c'est celui qu'on nous a mis dans les mains.
Et ce, dans un monde idéal, parce que finalement, il y a beaucoup de critères qu'on a mis en avant, mais qui finalement sont soit pas, soit que peu réalisable parce que du coup il y a tout un ensemble de facteurs qui font que c'est pas forcément possible puisque le numérique va demander des ressources, un extractivisme, mais aussi la question du prix, est-ce que c'est gratuit, mais dans ce cas-là c'est mon produit et plein d'autres choses comme ça. J'ai arrêté ici de parler.
Ouais, du coup dans les outils qu'on avait notés aussi qu'on trouvait intéressants, c'était d'avoir des formats ouverts, d'avoir des formats interopérables, c'est-à-dire qui du coup vont être des formats qui vont être utilisables dans d'autres outils que celui dans lequel vous avez créé le fichier, des questions de prix et de gratuité, qui du coup pose cette question que tu viens de soulever, la question aussi de la sobriété en performance technique du dispositif qui va faire tourner le logiciel. La question de l'utilisabilité par les tiers, si jamais vous avez besoin de faire accéder du coup par exemple d'autres personnes à votre logiciel ou à une partie du logiciel, qu'elle soit du coup facile à utiliser. La traduction aussi vernaculaire, que ce soit dans la langue des gens, dans la langue que les gens vont parler.
Ou alors de proposer des possibilités d'évolution vers des catalogues de langages qui puissent être ajoutés après.
Voilà, donc dans le logiciel libre, il y a souvent des possibilités de contribuer du coup à la traduction des logiciels. Et puis aussi, on a parlé des modèles économiques, que le logiciel soit, de, euh, soit du coup le plus possible dans un but non lucratif. Ce qui peut être intéressant parce que dès qu'on part sur des entreprises du coup à but lucratif, il y a pas mal de biais qui peuvent arriver dans la maintenance, on va dire, des outils. Et puis on avait aussi forcément dit que ça pouvait être sympa que les outils soient sans IA génératif, sachant tous les problèmes que ça pose. Et après, du coup, on a un petit peu reposé la question de quels outils peuvent être intéressants, mais on n'a pas traité toutes les cases, tous les tableaux qu'on avait remplis à l'avance. Et du coup, nous, on a la chance d'avoir... on va avoir un petit récap de toutes les alternatives possibles, mais que peut-être aussi vous pouvez avoir aussi pour faire tourner. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous qui
l'ayons. Framasoft est contactable, je crois, que vous pouvez les joindre.
Oui, Framasoft, ils sont très forts en libre et du coup dans l'accessibilité. Donc vraiment, allez sur leur site internet, vous avez accès à tout. Il y a des MOOC, il y a vraiment, c'est une bibliothèque. Et du coup, il y a un petit fascicule absolument génial qui vous dit pour tel type d'utilisation, je ne sais pas, création graphique, outils bureautiques, agenda, quels sont les outils privateurs et les outils émancipateurs. Et du coup, nous, au CodePixel, on va essayer de tenter l'aventure pour sortir des GAFAM. Donc, s'il y a d'autres structures culturelles qui ont envie de tenter l'aventure avec nous, n'hésitez pas, parce que c'est sous les longues bûches, mais ça peut être cool d'interagir ensemble. Voilà. Merci.
Marinette et Léa, vous serez chaudes de venir. Donc là, c'était l'atelier de Chloé des Moineaux sur le fait de faire des manettes de jeux vidéo DIY avec des claviers recyclés.
Alors nous, on a démonté la clavier, ensuite on a essayé de retravailler sur une bande en carton. Ça consistait en quoi ? Essentiellement, aller chercher les touches du clavier sur ce petit bande. À l'aide de Word. Donc, je sais pas comment on appelle l'outil justement à lui permettre de connecter la petite. De quoi ? C'est le petit outil avec une
Avec les deux
pointes. Ah, le jumper. Voilà. C'est un jumper donc, pour connecter toutes les deux petites nappes qui sont ici jusqu'à trouver les lettres ZQSD qui nous ont permis ensuite de créer ce système-là que moi j'ai fait à moitié, on va dire. Mais Marinette, elle a fait quelque chose de beaucoup plus.
Moi je
vais aller à droite-gauche. Moi je vais aller à droite. Toi tu peux faire droite-gauche. Donc on a deux, trois claviers qui permettent de jouer à Mario après.
On peut voir.
Ah oui, on peut juste faire
attention
au studio.
Et en fait, c'est hyper fun. C'est vraiment trop bien comme atelier. Et donc, on va terminer avec une petite démonstration. Je ne sais pas s'il y a des personnes de l'atelier de Tom ce matin à Vidéophare à Écoutine.
Ah, mec, je te jette une vidéo.
Pas de là où il a conçu lui-même, mais de Lyon,
Je crois que c'était les graines.
Oui, on l'a fait avec les graines en avril dernier.
Voilà. Donc, c'est un concept de... C'est un rétroprojecteur, comme on connaît. Enfin, il y a déjà plus de 20 ans. Enfin, c'est un système qui existe depuis très longtemps et qui a juste été réadapté pour avoir une puissance de projection qui est un peu plus performante que ce qu'on connaît de salle de classe des étés. Et du coup, donc je crois qu'on peut projeter carrément sur une façade.
C'est ce qui va arriver ce soir sur la télé du TMP.
Spoiler. Du coup, donc en fait, Tom a fait défiler justement d'après des enregistrements audio. Des parcours de vie en fait restitués en enregistrement sonore qu'il a illustré en faisant défiler justement sur la cellule, sur le tapis de lumière, on va dire, avec des calques qu'il a prototypés, dessinés et puis mis en scène en fait sur cette cellule. Donc c'était très beau d'ailleurs, c'était assez poétique. On voit bien que ça demande une certaine suite dans les idées, une certaine préparation et élaboration notamment dans le récit et qu'on n'est pas obligé de tout illustrer, mais justement ça demande une certaine mise en image, en tout cas des voix. Et donc c'est un exercice qu'on a pu faire après, par la suite, tous ensemble. Je crois qu'on était un peu plus d'une vingtaine. Donc on a essayé d'illustrer quelques phrases qui avaient été un peu extraites de l'enregistrement sonore. Donc on avait chacun à peu près deux bouts de phrases à illustrer. C'était un exercice qui n'était pas évident, pour être honnête. beaucoup de personnes se sont plaintes d'ailleurs. de devoir écrire avec un stylo, enfin dessiner, c'était vraiment outrage au numérique. Et donc, par la suite, on a pu essayer de mettre un peu à plat pour voir tout ce que chacun avait réalisé comme œuvre majestueuse, avec un bic. Et donc, on a choisi un peu les principales vignettes qui allaient apparaître sur une bande de calque je sèche en...
En
cellulose, merci. Voilà. Donc c'était des rouleaux de cellulose en fait sur lequel de la terre de la martinière avait été badigeonnée dessus pour pouvoir avoir un effet calque sur lequel on vient gratter gratter avec un stylo, une pointe de stylo en tout cas, pour redéfinir les contours à la manière d'un calque. Et donc on a pu chacun défiler le rouleau en calque sur les dessins qu'on avait plus ou moins, enfin les ébauches qu'on avait réalisées, et reproduire. Et le but c'est donc de projeter ces rouleaux, ces banderoles qu'on a tous participé à dessiner. Ouais.
Voilà. Et ça va être sûr maintenant.
Tu l'as essayé l'histoire ou pas si tu l'as pas fait ?
Ah oui. De l'enregistrement sonore ?
Choisis au suivi. Sur la thématique. Je ne sais pas si tu l'as précisé.
Il s'agissait de récits de personnes qui étaient sur...
Alors, on avait chacun un petit bout, un petit bout de sort, c'est ça que tu fais ?
Non, c'était... en fait, je ne sais pas si en préambule, tu avais expliqué que c'était des histoires subies ou choisies sur les personnes qui ont quitté leur pays.
Moi, je pense que tu devrais venir. Effectivement, il y avait deux récits. Donc, le premier récit qui a été mis en scène par Tom, c'était le récit de Youssef qui s'appelait.
Youssef.
Et le nom du film.
Ah, attends, le total, ça s'appelle Je suis venu du ciel en bateau.
Voilà.
C'est une règle de 40 minutes, dont Youssef est une partie. Et l'autre personne.
Et l'autre personne qui s'appelle Ambre, du coup, qui est donc. Qui est originaire du Congo, non, du Rwanda. Ouais, originaire du Rwanda et qui a donc, à cause du génocide, qui a dû devenir réfugié politique en France et qui a été adopté par une famille française et qui raconte un peu tragiquement, pas tragiquement, puisque on entend quand même raconter avec beaucoup de recul, les traumas subis, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et d'amour qu'elle a pour ce pays d'adoption qu'est la France, les personnes qu'elle a rencontrées, qui l'ont amenée à pouvoir aujourd'hui devenir auxiliaire de vie
et elle-même essayer d'être présente, d'être là pour les personnes qui en ont besoin. Donc on suit un peu tout ce parcours de manière auditive et qu'on a essayé de retranscrire en tout cas sur les rouleaux de SARS.
Et on va essayer, non ? Et donc on va essayer